Alors, bonjour et bienvenue à cette petite série sur les attributs de Dieu. Mon nom, c'est Pasteur Pat et ce matin, on continue sur notre lancée de la dernière fois et on continue de parler de la Trinité. Avant de poursuivre, on va juste reprendre le temps de remettre ça au Seigneur. Fait que Père, on veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour ta parole. Ta parole est un guide sûr, hein, sûr pour non seulement nous apprendre à vivre, mais surtout pour nous apprendre qui tu es, comment tu es. C'est qui ça, ce Dieu-là, qu'on adore puis qu'on aime? Fait que Père, je te rends grâce pour la parole ce matin dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on continue sur la Sainte Trinité. La dernière fois, on a vu que Dieu, loin d'être unique, même s'il est unique, même s'il n'y a qu'un seul Dieu, hein, il y a une pluralité en Dieu. Et que dès le début de l'histoire, hein, prenez le credo, hein, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, bien déjà, l'idée du Père, hein, de Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. Donc, déjà, la Trinité était bel et bien comprise, bel et bien enseignée, et Dieu n'était pas seulement vu comme, ah, il y a un Dieu au ciel. Oui, il y a un Dieu au ciel, mais il est trinitaire. Il y a une pluralité en Dieu. Et quand on dit ça, c'est important de comprendre qu'on ne dit ce qu'on ne dit pas. Souvent, dans la vie, ce n'est pas les ressemblances qui comptent, c'est les dissemblances, c'est les différences. Si je vous donne deux cachets de forme ronde et blanche, ils se ressemblent à toute fin pratique, presque se ressemblent. Il y en a un que c'est un analgésique pour le mal de tête, l'autre c'est un laxatif. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Les ressemblances ou les différences? Évidemment, c'est les différences. Hein, on ne veut pas se tromper de cachet. Bon. Ben, c'est la même chose. Hein, la manière qu'on va exprimer les choses, des fois, ça va se ressembler. Mais ce qui compte, ce n'est pas quand ça se ressemble, mais c'est comment les choses sont différentes. Alors, une façon souvent, et je l'entends parfois, les gens vont dire, oui, mais comment veux-tu qu'il y ait un seul Dieu puis trois dieux? Mais écoutez bien ce qu'ils viennent de dire là. Un seul Dieu et trois dieux. Alors, c'est important. Écoutez bien. Dans l'histoire de l'Église, dans le christianisme, dans la Bible, jamais les chrétiens ont été polythéistes. Polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Hein, le préfixe poly, hein, ça veut dire plusieurs, théiste, Dieu. Alors, jamais les chrétiens ont été polythéistes. Mais les chrétiens n'ont jamais cru qu'il y avait un Dieu. Et trois dieux. Ça n'a jamais, jamais été enseigné. En tout cas, pas par ceux qui savaient de quoi ils parlaient. OK? Jamais les chrétiens ont parlé d'un dieu et de trois dieux. Plutôt, hein, donc ça, c'est pas bon. OK? Plutôt, ce qu'on va voir dans les Écritures, puis comment les croyants ont exprimé cette croyance d'une pluralité en Dieu, bien, il y a un Dieu et trois personnes. D'ailleurs, toute la notion de personne, de personnalité, tout comment on conçoit une personne aujourd'hui, ça, là, cette notion-là, a carrément été forgé par les penseurs chrétiens pour essayer d'exprimer cette réalité d'une pluralité en Dieu. Alors, même le concept de personne est dépendant de notre compréhension de Dieu. C'est fort, mais c'est pourtant un fait historique. Okay? C'est un fait qui est historique. Bon, alors, un Dieu, trois personnes, c'est pas un Dieu, trois dieux, loin de là, ce n'est pas ça. Maintenant, un Dieu, trois personnes, on connaît les trois personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, traditionnellement, quand je dis traditionnellement, je ne parle pas des traditions, là, je parle de comment est-ce que dans le passé, on a eu tendance à parler de quelque chose. Habituellement, quand on étudie la Trinité, il est courant de voir l'étude de la Trinité divisée en deux grandes parties. Il va y avoir la Trinité en soi. Trinité en soi. Puis la Trinité vers l'extérieur. Extérieur. Extérieur. Bon, OK. C'est pas deux trinités différentes, là, hein? C'est deux manières de voir la, de d'étudier, de comprendre la Trinité. La Trinité en soi, bon, ça on appelait ça, c'est un drôle de nom, là, la Trinité ontologique. Quand on parle de la Trinité ontologique, ceux qui ça intéresse, pas tout le monde s'intéresse, ça veut dire la Trinité comme elle existe dans la réalité, en soi. OK? Trinité économique, comment elle s'exprime, comment elle gère la création, comment elle agit vers l'extérieur. Donc ça, c'est comme dans en Dieu, là, dans comment les choses se passent en Dieu lui-même. Ça, c'est comment les choses se passent quand Dieu agit vers l'extérieur. OK? Donc, je vais surtout vous parler de la première partie, mais on va quand même toucher un petit peu de la Trinité économique. On va voir surtout la Trinité ontologique, la Trinité en soi. En soi, donc, la Trinité ou Dieu est une pluralité, puis Dieu est une unité. Il y a comme cette tension. Et malheureusement, la dérive que je parlais la dernière fois, c'est qu'en Occident, on a tendance à mettre une emphase démesurée sur l'unité de Dieu aux dépens de sa pluralité. Alors que, dès le départ, dans l'histoire, au début, les premiers chrétiens, comment ils enseignaient ça, c'était vraiment une emphase sur Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc une emphase sur la pluralité qui était tout aussi importante que l'idée que Dieu était un seul Dieu. Parce que il y avait vraiment cette compréhension qui, dès le livre du Deutéronome, on se souvient de Deutéronome, hein? Si vous tournez dans Deutéronome chapitre 6 avec moi, puis là, laissez-vous pas inquiéter par les gros mots. Les gros mots, c'est juste pour ceux que ça intéresse, juste comme ça, par des fois les gens peuvent être curieux. Hein? Mais laissez-vous pas impressionner par ça. Les idées qu'on va partager ce matin sont assez simples pour tout le monde à comprendre. Un enfant peut comprendre ça. Okay? Alors, souvent, on va se laisser impressionner par les mots utilisés parce que les mots font peur. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur d'un mot. Un mot, c'est un outil qu'on a pour exprimer quelque chose. Alors, quand on tourne dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, on lit, on peut dire, le credo d'Israël. Hein? Un peu la phrase que Israël a voulu, parce qu'elle est importante, cette phrase, et on va le lire. Deutéronome 6, 4, écoute, hein? On appelle ça le Shema, le écoute, écoute Israël. Hein? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est en hébreu plus qu'en français. En français, on le voit bien, mais en hébreu, c'est vraiment fantastique parce que le mot, il y a deux mots utilisés pour parler de Dieu dans ce passage-là. Il y a, je vais juste effacer ça avant que ça sèche trop, parce que quand ça sèche trop, ben je ne suis plus capable d'effacer. Et là, il faut que j'utilise du vim pour nettoyer ça. Bon, OK. Il y a Elohim, qui est un des noms utilisé pour Dieu, puis il y a Yahweh. Ou le tétragramme, là. On ne sait pas trop comment ça se prononce. On a une bonne idée que c'est Yahweh. Hein? YHVH, en tout cas, le nom hébreu que Dieu s'est donné, hein, qu'on traduit habituellement par, dans Exode 3, on va le traduire soit par « Je suis » ou dans les Bibles françaises par « Éternel ». Dans les Bibles anglaises, comme la King James, et même dans certaines Bibles françaises rares, on va traduire ce nom-là par Jéhovah. Hein? Je trouve ça une très mauvaise traduction de ça, pour des raisons que peut-être qu'on regardera une autre fois, et que malheureusement, la secte des témoins de Jéhovah ont usurpé, se sont appropriés pour dire que c'était les témoins de Jéhovah. Mais Jéhovah, c'est une erreur. Jamais le nom Jéhovah apparaît nulle part, ni dans l'hébreu, ni dans le grec. C'est une erreur de l'histoire où est-ce que, à cause de la façon que l'hébreu était écrit, hein, où est-ce que, parce qu'en hébreu, il n'y a que les consonnes qui sont écrites. Il n'y a pas de voyelles dans l'hébreu écrit à l'origine. Et par la suite, pour faciliter la lecture, surtout la lecture par les non-juifs, on a développé des signes pour décrire les voyelles, un peu comme les accents en français, où est-ce que c'est des points en dessous des lettres, en dessous des consonnes, pour donner une idée de la voyelle qui va suivre la consonne. Okay? Et parce que les Hébreux avaient peur de prononcer le nom de Dieu en vain, sous les consonnes du nom Yahweh, il avait mis les voyelles de soit du mot Seigneur, Adonai, soit d'autres noms de Dieu. Et donc, les premiers traducteurs qui n'étaient pas au courant de cette pratique-là se sont trompés. Ça a donné Yehowa. Ça a donné ensuite, quand c'est arrivé en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas le son Ye, il y a le son Je. Alors, c'est devenu Jéhovah. Et donc, ça a été par la suite des temps, par une sorte de méandre historique, c'est devenu le nom accepté de Dieu, Jéhovah. Hein? De l'allemand à l'anglais. De l'anglais, ensuite, ça s'est répandu à cause de la King James, à cause de toutes sortes d'influences comme ça. Et donc, le nom Jéhovah, c'est une erreur d'histoire. C'est quelque chose de comme ça, en tout cas. Fait que, on revient à Deutéronome 6, 4. Elohim, Yahweh. Elohim, ça veut dire Dieu, mais... Le him ici, là, c'est un signe du pluriel en hébreu. C'est un signe du pluriel. Pourtant, il dit, écoute Israël, l'Éternel, Yahweh, ton Elohim, pluriel, signe du pluriel, ton singulier, Elohim, signe du pluriel, est le seul Éternel. C'est cool, hein? C'est cool, il y a déjà cette notion de pluralité en Dieu. Bon, il y en a qui vont dire, il va y avoir parfois des pronoms pluriels qui vont être utilisés pour parler de Dieu, comme par exemple, quand Dieu va dire « Faisons l'homme à notre image ». Alors, certains vont dire « Oui, mais c'est le nous de majesté ». Savez-vous c'est quoi, c'est le nous de majesté? Ben, le nous de majesté, c'est comme quand un roi va parler de lui-même à la troisième personne. Nous décidons qu'aujourd'hui, nous allons, plutôt que de parler de lui-même à la première personne, il va parler à la troisième personne. On appelait ça le pluriel de majesté. Où on va parler, et moi j'ai été enseigné comme ça, quand je m'adressais à un adulte quand j'étais petit, c'est moins courant ces temps-ci, on vous voyait les gens. C'est le pluriel de majesté ou un pluriel de respect si on veut. Et donc, les gens vont dire qu'il y a un pluriel de majesté en hébreu. Par contre, il y a des bonnes raisons de croire que le pluriel de majesté en hébreu a été introduit dans la langue hébreu par, ou la notion de pluriel de majesté a été introduite par ce qu'on appelle ceux qui au sein du judaïsme, voulait opposer les chrétiens. En disant, non, c'est le pluriel de majesté, c'est comme... Mais pourtant, si on regarde les Écritures, à ma connaissance, il n'y a pas d'endroit où tu vas voir le roi David s'adresser à lui-même, au nous, ou voir quelqu'un d'autre adresser le roi par le vous. Il ne semble pas avoir ce pluriel de majesté dans l'Ancien Testament. Donc, fort probablement, et moi je suis de cette opinion-là, ça parle de la pluralité en Dieu. Donc, il va y avoir des verbes utilisés au pluriel, des pronoms utilisés au pluriel, toutes sortes de mots utilisés au pluriel, un mélange de pluriel et de singulier, comme on voit ici en Deutéronome 6,4, où on voit vraiment cette pluralité en Dieu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, il y a le Echad. Ici, le seul éternel. Hein? Echad, c'est un mot hébreu. Je l'écris en lettres latinisées ici. Echad, qui veut dire une unité, mais une unité qui peut être composée. Hein? Comme une grappe de raisin. Une grappe de raisin, le mot grappe, c'est une unité. Donc, on parle d'une seule grappe. Pourtant, il y a plusieurs raisins dans une grappe. Donc, c'est une unité composée. Et à plusieurs endroits, si ce n'est pas à tous les endroits, mais en tout cas, dans plusieurs endroits, on voit que le mot « echad » veut dire ou signifie une unité composée de quelque chose. Donc, pas seulement une unité, c'est pas un, c'est « had », c'est le seul, c'est une unité qui est composée, qui est complexe. Donc, on voit vraiment que, dès l'Ancien Testament, par le nom, l'homme pluriel Elohim, par l'utilisation des « had », par l'utilisation de toutes sortes de moyens comme ça, stylistiques, on voit que vraiment dans l'Ancien Testament, on avait cette conception plurielle de Dieu, même si tout le monde était d'accord pour dire que non, il y a un seul Dieu. Maintenant, qu'en est-il pour le Fils de Dieu? Regardez, tournez dans le psaume 2. Le psaume 2. « Je publierai le décret, verset 7, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Tournez dans le Proverbe 4 ensuite. Et ça, Proverbe 34, c'est fantastique. Moi, c'est un proverbe, un texte qui me surprend. J'ai beau le relire, à chaque fois que je passe à travers le livre des Proverbes, puis que j'arrive à la fin du livre, ou en tout cas presque à l'avant-dernier chapitre, et je tombe au verset 4 de ce chapitre-là, je suis toujours abasourdi. Écoutez bien ça. « Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? » Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom? Yahweh. C'est toutes des choses qui décrivent Dieu, là. Regardez bien ce que ça dit après. Quel est le nom de son fils? Wow! Livre des Proverbes, l'Ancien Testament. Quel est le nom de son fils? Le Fils, c'est le Fils éternel du Père. Au jour de l'éternité, Michée, chapitre 5. Donc, la Trinité a toujours été trinitaire. Déjà, et ça, on parle au sein même de la Trinité, on voit cette Trinité être. On pourrait aller dans 1 Corinthiens 11, où est-ce qu'on voit que le Père est la tête du Fils. Donc, il y a ce genre de hiérarchie au sein de la Trinité, au cœur même de la Trinité, il y a cette hiérarchie, le Père et le Fils. Dans le Saint-Esprit aussi, là, il est là. Il ne faut pas l'oublier, le Saint-Esprit. Il est une personne à part entière au sein de la Trinité. On le voit agir déjà dans le premier chapitre de la Genèse, parce qu'il est sur les eaux et il couvre la terre, l'Esprit de Dieu. Et là, on voit qu'au sein de la Trinité, il y a ce genre de hiérarchie, mais vers l'extérieur de la Trinité, on voit toujours, et quand on compare les textes avec les textes, on voit que la Trinité agit ensemble. La Trinité, l'action de la Trinité, Dieu agit vers l'extérieur. Et c'est peut-être qu'ils vont avoir des. Je ne sais pas si on peut parler de responsabilité. Mais le Père est toujours là, le Fils est toujours là, l'Esprit est toujours là. On voit le Fils. Comment le Fils vient pour venir sur terre? Ben, c'est le Saint-Esprit qui couvre Marie. Comment le Saint-Esprit vient sur terre? C'est le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble dans le ministère de l'un et de l'autre sur la terre. Et le Père, évidemment, il est là aussi. Une des plus belles images de ça, c'est au baptême de Jésus. Quand Jésus va sortir de l'eau, le Saint-Esprit descend comme une colombe et la voix du Père se fait entendre. La Trinité est là. La Trinité est présente. Donc, on voit que on pourrait voir plein de passages. Mais aujourd'hui, mon but, ce n'était pas d'aller dans les détails pour faire une étude exhaustive sur la Trinité. Ça prendrait des mois pour faire ça. Puis ça serait génial. Moi, j'aimerais ça faire ça, mais le temps nous manque, hein, dans la raison d'être de ce matin. Donc, pluralité dans la Trinité. Maintenant, quand on tombe dans les pages du Nouveau Testament, on voit la même chose. Tournez avec moi dans Jean, dans l'Évangile de Jean. Et dès le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Mes pages sont collées. OK. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, le Fils et le Père forment un seul Dieu. Ça, il n'y a aucune, comment je dirais ça, là? Aucun quiproquo là-dessus, là. La seule façon qu'on peut pas voir ça dans les Écritures, c'est si la version qu'on utilise n'est pas adéquate. Si les traducteurs ont mal fait leur travail, volontairement ou non, là. S'ils n'ont pas fait bien leur travail, bien à ce moment-là, on voit qu'on perd de vue la réalité que la parole est Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, on voit que le Père est appelé Dieu, on voit que le Fils est appelé Dieu, on le voit ici dans Jean 1.1. Tournons dans Romains 9.5. Verset 4, on va commencer. Qui sont Israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. On voit que le Christ qui est assis au-dessus de toutes choses, ben c'est lui qui est Dieu béni éternellement. Titre 2, 13. Titre 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Le Père, évidemment, il est appelé Dieu. Personne, je pense, personne doute de la divinité du Père. Le Fils, il est appelé Dieu. Et le Saint-Esprit, tournez avec moi dans Actes 5, versets 3 et 9. Acte 5. Versets 3 à 9. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Pardon, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, comment as-tu pu mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, évidemment, si tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu. Les deux sont un. Puis, on voit dans 2 Corinthiens, verset 3. Chapitre 3, c'est-à-dire 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Fils, le Seigneur, c'est le Fils. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Père, c'est le Seigneur. Hein, on voit, les trois sont appelés Seigneur. Les trois sont appelés Dieu. Les trois agissent. Maintenant, c'est pas modalement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pas une fois il est appelé Père, l'autre fois il est appelé Fils, l'autre fois... Non, parce que, hein, comme dans les psaumes, on va voir ton Dieu, ô Dieu. Hein? Dieu parle à Dieu et fait référence à Dieu. Ils se parlent entre eux. Il y a cette communication. Hein? Le Père va dire au Fils, on l'a vu dans le psaume 2, « Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, on voit vraiment dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tant une unité qu'une pluralité. Okay. Donc, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu trinitaire, un Dieu en qui il y a une pluralité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais trois personnes distinctes en Dieu. On a vu ça comment? On a vu ça par différents passages de l'Ancien Testament qu'on a regardé brièvement aujourd'hui. Les pronoms pluriels, les verbes pluriels, le mot comme dans Deutéronome 6,4, Echad, qui veut dire comme une unité composée. On a vu aussi comment est-ce que dans le Nouveau Testament, le Fils est appelé Dieu, le Père est appelé Dieu, le Saint-Esprit est appelé Dieu. Et on voit que Dieu en lui-même, dans 1 Corinthiens 11, il y a comme une hiérarchie en Dieu, mais quand il agit vers l'extérieur, Dieu y agit ensemble. La Trinité agit conjointement. Donc, voici un des plus beaux attributs, si on peut parler d'attributs, hein? Dieu est trinitaire. Dieu n'est pas seulement une unité comme ça, impassible. Non, il y a un amour éternel entre les membres de la Trinité. Il y a un lien qui tisse les membres de la Trinité. Il y a cette beauté qui existe de toute éternité et qui n'était pas dépendante. Dieu n'est pas dépendant de la création pour pouvoir aimer. Hein? La Trinité s'aime entre elles. Les personnes de la Trinité s'aiment entre elles. Donc voilà pourquoi c'est si important de comprendre la Trinité. Rappelez-vous, l'idée même de personne, hein, vient du fait que les penseurs se sont cassés la tête pour essayer d'exprimer ce qui était en Dieu, les trois personnes de la Trinité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.